Donc, maintenant, Lola Gwynne, c'est un pseudonyme que j'utilise tout le temps pour signer. Et je viens du sud de l'Espagne, mais j'habite maintenant à Montréal. Je suis une militante queer et je fais aussi de l'art visuel. J'appartiens à un groupe à Montréal qui s'appelle les Saint-Émilie Sculpture au quartier Saint-Henri. Et sinon, en Europe, j'ai participé à beaucoup d'événements et beaucoup de groupes queer ou des groupes transpédéguines, comme on dit en France. Et depuis des années, ça, j'ai une pratique artistique, surtout en illustration et en graphisme, qui s'est vue militante et politique. Ma définition de queer, celle que je vais donner ici, elle m'appartient à moi. Je pense que l'une des réalités de la mouvance queer et des espaces queer, c'est aussi la diversité d'opinions sur c'est quoi le queer. Personne n'est très très d'accord. Même à Montréal, il y a énormément de divergences entre les groupes. Pour moi, les queers, c'est surtout réfléchir sur les normes des genres, des normes qui nous imposent une binarité des genres et des codes des genres, des codes aussi d'un sexe biologique égal à un genre donné et égal à une sexualité. Pour moi, c'est une lutte qui va confronter l'hétéronormativité et les normes qui régissent tout ce qui est genre, sexualité et sexe biologique. Et aussi, pour ma part, et je pense que dans la mouvance queer, surtout plus anglophone, c'est de faire le lien avec d'autres oppressions, d'avoir à décider que les genres, c'est pas la seule oppression, ou c'est pas l'oppression principale. C'est l'une des oppressions, comme l'oppression du racisme, l'oppression de la colonisation, l'oppression du classisme, l'oppression, etc., d'habileté, d'âge, ce qui est norme du corps, beauté, éducation, langue, statut légal, etc. Donc pour moi, c'est très important que dans les mots queer, il y a tout le temps une idée et d'être conscient de l'imbrication des oppressions. Comment les oppressions ne sont jamais uniques, mais elles sont dans un système. Je pense que la mouvance queer, j'ai un ami qui l'autre jour me disait ça, on n'est jamais. Une personne qui se dit queer seulement, ça pose un problème. On est tout le temps queer, on est tout le temps militant queer et anti-impérialiste, on est militant queer et écologiste, on est tout le temps. Il y a tout le temps plus que les queers. Les queers, ça ne suffit pas. Je pense que dans mon cas, dans le cas d'autres personnes, la création artistique, pour moi, c'est une forme de militantisme qui me permet de créer une culture, de créer un endroit et de créer une vision du monde qui m'appartient, qui me reconnaît, qui me rend visible. Quand je dis mais, ça veut dire aussi aux gens qui partagent les mêmes idées que moi ou les gens avec qui je partage des idées. Donc c'est une culture ou un art qui va justement montrer qui nous on est, quelle est notre culture et à quel code nous on répond ou on répond pas. Je pense que le fait que le queer c'est pas simplement pour les personnes gays et lesbiennes, c'est vraiment beaucoup plus large que ça, facilite beaucoup le fait qu'il y a beaucoup d'artistes queer qui travaillent aussi en réseau. Et comme dans les centres Sainte-Émilie où on travaille pas simplement pour la communauté queer. C'est sûr qu'on travaille, on est toutes des personnes queer, mais on travaille beaucoup aussi pour d'autres groupes en donnant un soutien artistique. Artistique, c'est aussi une question d'image. Donc on peut aider, on peut montrer comment est-ce qu'on fait des t-shirts, comment est-ce que on fait des flyers, comment est-ce qu'on fait de la sérigraphie, comment est-ce qu'on fait de la photo, etc., etc. C'est d'autres tactiques militantes.
Et puis toi, en particulier, tu fais un zine qui s'appelle Il pleut des gouines. Pourquoi choisir cette voie-là du zine?
L'idée de faire des zines, c'est vient de du fait que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter tous les livres du monde, que parfois j'ai l'impression que les livres vont pas parler pour moi. Le zine, c'est une publication autogérée dans laquelle tu peux t'exprimer librement. Et c'est très très lié à une culture DIY. DIY veut dire do it yourself, donc fais-le toi-même, dans laquelle les personnes peuvent se réapproprier des techniques, peuvent apprendre et partager des techniques, des outils et des médias auxquels on n'a pas accès normalement. Les zines, c'est avoir accès à une édition. Ce qui est bien du zine, c'est qu'il voyage. C'est simplement des feuilles brochées ou peu importe, ou collées entre elles avec des dessins ou des textes, etc. Mais qui vont se rendre un peu partout, facilement. Et ça reste quelque chose de très matériel qu'on peut toucher. C'est pas une chose virtuelle. Ça veut pas, les choses virtuelles sont très intéressantes, mais les zines, ça a un côté très pratique. Tu peux l'amener dans ton sac, dans le métro, etc. Donc ça se distribue très bien. Et moi, je suis arrivée aux zines parce que c'est la chose la plus simple qu'on peut faire. Ça suffit d'une feuille, d'un crayon ou d'un stylo et de photocopier. Donc c'est vraiment pas cher et on n'a rien à démontrer. Et on n'a pas besoin des connaissances techniques énormes. Les DIY, c'est justement d'apprendre à faire les choses soi-même. Donc ça, on fait un zine, on répare notre vélo ou on fait de la sérigraphie, etc., etc. Je pense que les zines ont une puissance et une présence très importante dans les mouvements DIY parce que c'est très très simple. Et comme le fait que ça, c'est pas cher, que c'est accessible à presque tout le monde, c'est que les milieux d'usine ou la scène d'usine, c'est très très développé dans les DIY.
Et puis, dans cette expérience-là d'activisme queer, peut-être en particulier en Europe, avec tout ce qui concerne la mouvance des squats, puis ici, comme on va le voir d'une autre façon, il y a cette question-là de la réappropriation de l'espace.
Je pense que la notion de l'espace en Europe et ici, ce que j'ai pu voir à Montréal est très différente, parce qu'en Europe, le squat est possible, c'est pas facile, mais il est possible. Ça fait que les groupes, quand on crée un groupe, on s'attache tout de suite à un lieu. Il y a tout le temps un lieu de réunion précis, et c'est pas la maison de quelqu'un. C'est souvent un lieu qui existe, soit un squat, soit un centre autogéré, qu'on réussit à faire vivre en faisant des fêtes ou peu importe, mais ces liens au lieu, c'est très important. Pour ce qui est du squat, je pense qu'il y a deux expériences qui, moi, je considère très importantes en Europe. C'est le squat à Berlin, c'est le Schwarzer Kanal, qui veut dire les canals noirs. Et c'est un squat queer, exclusivement queer, qui est en centre-ville de Berlin. Et à Berlin, il y a énormément de squats. Mais ce squat-là, c'est pas un bâtiment. C'est un camp des camions et des vannes, ce qui est très courant dans les pays du nord de l'Europe. Et c'est vraiment énorme. Et chaque personne a son propre camion, sa propre vanne. C'est pas des vannes qui roulent, c'est pas un parking de vannes. C'est des vannes qui sont là, garées, certaines qui peuvent pas bouger, qui ont pas des roues ou peu importe. Là. Ça fait des années qu'elles sont là. C'est des vannes qui ont été réaménagées en habitation, et à part ça, qui c'est les habitations individuelles, il y a aussi, par exemple, une énorme vanne qui sert de bibliothèque, avec une cuisine commune, et comme un salon pour manger, avec plein de coussins, c'est vraiment très très beau, avec plein de lumière. Il y a une autre vanne qui a été reconvertie en salle de projection, et un festival de cinéma queer qui se passe sur le Canal. Il y a cette salle qui est utilisée, donc ça fait un petit cinéma. Et il y a aussi une autre vanne, que c'est une vanne pour inviter. Donc les personnes qui arrivent là peuvent dormir dans cette vanne. Il y a une vanne qui a été reconvertie en atelier vélo, par exemple. Donc il y a énormément de... j'ai déjà dit au moins 4 vannes. Il doit y avoir encore d'autres vannes qui sont communes. Je pense qu'il y a une vanne aussi pour la bouffe commune. Et à part ça, il y en a peut-être une vingtaine ou une trentaine de vannes individuelles. Donc ça fait un camp de peut-être, on va dire, 40 vannes dans un espace énorme avec des jardins aménagés aussi par les personnes qui habitent. L'autre expérience des lieux, c'est... et l'autre espace auquel je pense, c'est à Madrid. Je pense que les deux pays ou les pays qui ont le plus de squats, c'est... qui ont le plus d'espace, c'est l'Allemagne, l'Hollande et l'Espagne, où il y en a énormément de squats. Et l'autre expérience des squats, très intéressant d'un niveau, d'un point de vue féministe et lesbien, c'est l'Escalera Caracola à Madrid. Donc, c'est un squat qui existe depuis une douzaine d'années, qui a failli être expulsé, mais que grâce au soutien de la population du quartier de Madrid et de la du milieu féministe de toute l'Espagne a réussi à que l'État cède les locaux à l'Escalera Caracola, ce qui est une victoire énorme. C'est un squat qui maintenant a son propre local, qui n'est pas expulsable. Et dans ce lieu, il y a énormément de groupes qui se réunissent. Il y a des gens qui habitent, c'est un bâtiment, mais il y a surtout d'autres groupes, des groupes queer, des groupes féministes qui vont aller là, et avoir un espace de réunion, un espace d'atelier, etc. Il y a des groupes de femmes immigrantes. Il y a vraiment, c'est un lieu de, justement, qui est là pour que les gens puissent avoir un espace où se sentir en sécurité et se sentir libre de dire ce qu'elles veulent. Par rapport à l'expérience à Montréal, ces deux lieux qui sont des lieux très, je veux dire, mythiques, dans l'imaginaire féministe et queer européen, c'est tous les deux des lieux squattés. Je pense que le fait qu'à Montréal, on ne peut pas squatter les lieux, où c'est très très difficile, fait en sorte que les groupes n'ont pas des lieux facilement. Et je pense que c'est ça que le Saint-Emilie Sculpture a par rapport à d'autres groupes. C'est que c'est justement un collectif qui s'est créé pour avoir un lieu qui sert à d'autres groupes et qui sert des liens à d'autres groupes. Donc l'activité principale du Saint-Emilie, c'est créer ces lieux et créer cet espace. Beaucoup plus que de participer activement dans des luttes. Mais pour ça, ça veut dire qu'il y a un groupe qui doit être motivé à avoir un lieu et à lutter pour un lieu et pas se consacrer à faire d'autres choses. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Saint-Emilie Sculptures, il est à Saint-Henri, c'est un collectif de personnes queer et people of color. Et donc l'idée du lieu, c'est de créer un espace sécuritaire, un espace de partage de connaissances. Mais c'est ça, c'est un effort très important en comparaison aux efforts qui se font en Europe pour garder un lieu, qui sont aussi très grands, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont... être motivé à voir ces lieux.